Vous écoutez RMC. RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonsoir à tous. Cette fois, c'était prévisible. Evenepoel, vainqueur du chrono, Evian, Thonon, on l'imaginait plus que son succès dimanche au plateau de Solaison. Après avoir perdu son coéquipier Florian Lipovic aujourd'hui sur chute, le Belge est-il en mesure de rester sur la deuxième place du podium jusqu'à dimanche malgré les difficiles étapes qui arrivent? Voilà le thème de notre premier débat avec nos consultants Jérôme Coppel, Jérôme Pinault et Richard Virenque. De son côté, notre petit français Paul Sexas continue à nous épater, venu pour découvrir le Tour à 19 ans. Il termine quatrième du chrono aujourd'hui, quatrième du général à 20 secondes du podium. Seriez-vous déçu si Sexas n'était pas dans le top 5 dans 5 étapes? Appelez-nous au 32-16 si vous souhaitez poser vos questions à nos consultants sur ces différents thèmes ou d'autres. Bien sûr, vous avez carte blanche à partir de 19h45. Mais tout de suite, on revit cette course contre le temps au départ d'Evian.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
C'est parti, le réalisateur a loupé le départ de Paul Sexas, mais Maria ne l'a pas loupé. Elle part dans le sillage de notre prodige français. Le grand favori de ce contre-la-montre, il est deuxième au classement général. Il part à l'instant même avec le maillot de champion du monde du chrono, Remco Evenepoel. Le maillot jaune du Tour de France, sans doute futur vainqueur pour la cinquième fois. Tadej Pogacar qui s'élance.
Le fessier de Remco Evenepoel, c'est pas que je regarde les fesses des garçons, mais le fessier, droit. C'est du costaud, c'est du solide, c'est du béton armé. Hein.
22 secondes avant sur Isaac Del Toro. La machine belge est en route. Tadej Pogacar en retard sur Remco Evenepoel de 10 secondes. Très intéressant ce qui se passe actuellement. Isaac Del Toro qui est en train de passer au temps intermédiaire numéro 2 dans la même seconde que Paul Sexas. Ça se joue à rien. Remco Evenepoel est en train de se diriger vers une victoire d'étape. Il va mettre 56 secondes à Mathias Kelmoser. 56 secondes.
1:06 sur Paul Sexas et Isaac Del Toro.
Ouais, attention. Là, c'est un temps très important aussi dans ce classement général pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il est en train de faire vraiment une opération incroyable.
Attention, la chute
d'un des coureurs.
La chute de Lipovic.
Et il s'est fait mal. Il est au sol. Florian Lipovic.
Non,
c'est à l'arrivée. On a eu peur. C'est Juan Ayuso derrière la ligne. Il s'est donné tellement qu'il est allongé au sol. On s'est inquiété. Mais non. Allez, les derniers efforts pour Paul Sexas qui n'aura pas la victoire d'étape mais qui aura réalisé un très beau chrono. Les Belges sont en train de nous mettre le seum. Ils alignent vraiment les victoires. Remco Evenepoel vient de passer la ligne et très certainement remporter ce chrono. Tadej Pogacar perd de 28 secondes. Tadej Pogacar donc qui sera deuxième. La joie de Remco Evenepoel aujourd'hui.
Paul Sexas à nouveau quatrième. Il est abonné à cette place de quatrième. Mais on espère évidemment que ça ne sera pas le cas dans quelques jours du côté des Champs-Élysées.
RMC, l'After Tour.
Ah, c'était encore à y perdre notre latin et à y perdre la tête, mais c'est bon, on est retombé sur nos pieds.
Que tu l'as perdu la
désormais,
tête.
Toute l'équipe de l'After Tour est là. À Thonon, nos consultants, Richard Virenque, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Et Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonsoir.
Le chrono, ça se joue à une seconde hein, parfois, donc si vous nous avez pas suivi cet après-midi. On rappelle
Vous avez eu tort de ne pas nous suivre parce que c'est régalé. C'était un bonheur cet après-midi, ce contre-la-montre. Moi, j'adore les chronos. Je suis comme Jérôme. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai?
J'adore parce que il se passe plein de choses. On voit vraiment la puissance des garçons et il y en a qui coincent. Alors, celui qui n'a pas coincé, c'est évidemment Remco Evenepoel qui remporte là sa deuxième étape consécutive après celle de dimanche au plateau de Solaison. Il s'impose avec 28 secondes d'avance sur le maillot jaune Tadej Pogacar. C'est mieux que l'année dernière. Il s'était imposé lors du chrono, mais il y avait moins d'écart. Le troisième, c'est la grosse surprise du jour. C'est Mathias Kelmoser, le coureur danois de la formation Lidl Trek, qui termine avec un retard d'1:04. Paul Sexas, abonné donc à la quatrième place, comme le disait Pierre-Yves, termine à 1:16, soit 5 secondes de mieux que Isaac Del Toro, le grand rival de Polo sur ce Tour de France. Et du coup, les deux hommes ne se sont plus séparés que de 20 secondes, à la fois pour le podium du Tour de France, hein, Del Toro est toujours troisième, et pour le maillot blanc, là aussi, même écart. Le maillot jaune reste évidemment sur les épaules de Tadej Pogacar. Il avait 5 minutes d'avance ce matin, il n'en a plus que 4:32 ce soir. Del Toro est troisième à 6:51. Paul Sexas, quatrième, donc à 7:11, soit 20 secondes derrière. Ayuso, lui, a dévissé. Il est cinquième au classement général, mais plus de 2 minutes derrière Sexas. Et Skelmose revient à 1 minute de son équipier Ayuso. Lenny Martinez est toujours dans le coup. Il profite de l'abandon de Lipovic pour gagner une place. Il est ce soir 7e à 12 minutes 50. Et un autre Français est dans le top 10, c'est Jordan Jegat, 9e à 22,50 de Tadej Pogacar.
Richard Virenque, je te fais la passe pour lancer notre premier débat. Evenepoel, donc, qui s'impose aujourd'hui. Est-ce que, selon toi, connaissant la fin de ce Tour de France avec des étapes difficiles et parfois les limites de Remco dans cet exercice en très haute montagne et en même temps sa forme actuelle, est-ce que, selon toi, il peut finir à la deuxième place dimanche?
Il y a rien du tout de sûr, hein. Aujourd'hui, il est deuxième du classement général. Certes, il a gagné deux étapes, mais le tour est tellement difficile à partir de là, les quatre derniers, les prochains jours, que ça va être très compliqué. Vous imaginez, il y a une étape, l'étape de l'Alpe d'Huez, il y a plus de 5000 mètres de dénivelé. 5000 mètres. Donc, s'il n'y a rien qui est acquis, on va dire même que pour même Pogacar, il doit se dire waouh, on a un sacré week-end parce que il peut tout se passer. Regardez, une chute, on peut tomber malade, on peut avoir une défaillance physique. Donc je pense que pour tous ceux du classement général, tout est incertain. Même s'il y a des places acquises, même s'il va y avoir des duels comme on va dire avec Paul Sexas, tout reste indécis parce que les organisateurs on fait ça bien, on va dire. Ils ont mis beaucoup de difficultés dans ces quatre dernières étapes et il y a de quoi faire.
Jérôme Pinot, l'étape de samedi notamment, elle est terrible.
Oui,
et pour Remco, c'est peut-être là le point le plus sensible.
Bah, l'étape de samedi, c'est simple. Elle fait un peu plus de 175 km. Il y a 75 km de montée. 75 km, dont environ une soixantaine à plus de 7%. Ça veut dire qu'en plus, on va passer trois fois à plus de 2000. Et dans cet exercice-là, il n'y a pas un coureur qui est aujourd'hui capable de dire s'il ne va pas péter, s'il va être bien.
Même pas.
Mais il a telle marge que lui, il peut se permettre même d'être un petit peu moins bien. Mais tous les coureurs du classement général qui sont aujourd'hui dans un mouchoir de poche, pour la troisième place notamment, parce que Remco a pris de l'avance, mais même à partir de Remco jusqu'au 6-7e, si tu es pas bien ce jour-là, c'est pas 5 minutes que tu prends, c'est 20. Donc personne n'est serein et tout le monde s'attend à la bataille finale sur ces étapes-là. Il faudra pas être piégé avant. Il y a une étape vers Orcières-Merlette notamment, il faudra pas se faire piéger. Celle de Gap, faut pas avoir mis les deux pieds sur la même pédale parce que tu pars dès le départ, c'est en bosse et là faut pouvoir récupérer et donc cette étape va être difficile. Mais jusqu'à samedi, personne n'est capable de dire ce qui va se passer.
Jérôme Coppel, alors évidemment, c'est ta journée, t'as pris beaucoup de plaisir, on est dans un magnifique département,
il y a incroyable. Là, du monde partout.
J'ai un panorama vrai, fantastique, vrai, c'est magnifique. Au-delà de ça, Remco, il t'a pas surpris, j'imagine, même s'il fait un temps de canon. Comment tu l'imagines sur les jours à venir?
Ben, il m'a quand même un peu surpris. Honnêtement, aujourd'hui, même lui, même en chrono, il arrive encore à me surprendre. Je pensais pas qu'il allait faire de tels écarts. Alors, avec Tadej Pogacar, c'est un peu à pondérer parce que Tadej Pogacar, t'es pas dans le même état d'esprit de la victoire d'étape, reprendre du temps, etc. Mais même par rapport aux autres, même par rapport à Sexas, Del Toro, etc. Franchement, il m'a impressionné aujourd'hui. Maintenant, comme le dit GG, hein, l'étape de samedi, elle est vraiment très très dure. Lui, on sait que c'est un des problèmes qu'il a, peut-être qu'il s'est réglé et que tout va bien se passer, mais c'est l'enchaînement des cols et de la haute altitude. Samedi, c'est tout en 1500 et 2200 mètres d'altitude à peu près. Donc là, on va voir si vraiment il a progressé là-dessus, Remco Evenepoel. La chance, entre guillemets, qu'il a ou qu'il s'est donné lui-même, c'est que le classement général pour les deux premières places sont bien figés. Donc Tadej Pogacar premier, lui est bien installé à la deuxième place. Et avec l'étape du plateau de Solaison, maintenant, ça va être un peu une course d'attente pour le podium. C'est-à-dire, lui, il a dit clairement dans son interview, la victoire finale, j'y crois pas du tout. Et on a bien compris que Tadej Pogacar attend Del Toro. Donc en fait, le podium, plus ou moins, il est pas figé, mais il y aura pas de grosses manœuvres de Pogacar s'il doit attendre Del Toro, etc. Ça va venir peut-être de derrière, de Paul Sexas, d'Ayuso qui a déjà perdu beaucoup de choses. Donc c'est peut-être eux qui vont mettre le bazar. Mais finalement, Remco Evenepoel, si UAE et Tadej Pogacar gardent la même stratégie que lors de l'arrivée à Solaison, bah c'est tout bénef pour lui, hein, parce que c'est une allure, l'allure de Del Toro est en dessous de l'allure limite de Remco Evenepoel. Donc pour l'instant, c'est bien.
Tu évoquais ses réponses justement après la ligne. On l'écoute, Remco Evenepoel, évidemment satisfait de la performance du jour.
Pour le moment, je suis très content où je suis. Mon coach, il a vraiment eu la confiance en moi pour me préparer calmement. Et ouais, on avait vraiment l'objectif d'être dans la meilleure forme possible depuis les premières étapes de montagne. Donc voilà, je suis content où je suis, c'est bien. Il y a encore quelques étapes très très dures qui arrivent. Donc c'est très beau que je gagne deux fois d'affilée. Mais là, je dois me concentrer sur garder ma deuxième place et me battre pour cela. Parce que pour moi, c'est déjà un rêve d'être où je suis sur la deuxième place et deux victoires d'étape. C'est quelque chose que je rêvais depuis que j'étais petit, donc enfin que j'ai commencé la course. Donc très heureux où je suis et faut continuer à travailler.
Christophe, c'est un Remco Evenepoel tout sourire, très affûté, en pleine forme, qui vit un Tour de France formidable, il le dit lui-même. Mais on sent poindre le doute, lui aussi, sur cette semaine à venir.
Ah bah oui, ce que disait Jérôme tout à l'heure, évidemment, tout le monde est très inquiet de ce qui va se passer avec ces étapes terribles, les deux étapes de l'Alpe d'Huez. Il sait que par le passé, il a coincé dans ces moments-là. Donc évidemment, il se demande comment il va être mangé, à quelle sauce il va être mangé dans ces étapes-là. Mais c'est vrai qu'on le sent en totale sérénité. Rappelez-vous de l'année dernière, bon, il avait abandonné le Tour, mais le début de Tour avait été catastrophique. Il y a deux ans, il essayait de s'accrocher, mais il était chaque fois battu par Vingegaard et Pogacar. Là, on le sent d'une sérénité totale.
Et il est prêt.
Il est prêt, il est affûté comme jamais.
Je pense que c'est un coureur, comme on l'a dit, il est spécialiste du chrono. Et GG nous disait tout à l'heure, ils ont besoin de repères, d'avoir ce cadre-là. Mmh. Et lui, quoi qu'il arrive, il sait qu'il est prêt. Il a tout fait comme il fallait. L'année dernière, il avait chuté. Rappelez-vous, il a eu cet accident qui a gâché sa préparation. C'est un gros moteur. Il a besoin de faire des kilomètres. Il a besoin de bosser beaucoup pour être en forme et être rassuré. Je pense pas que ce soit le garçon le plus sûr de lui.
Non.
Il dégage quelque chose d'autre, mais il a certainement besoin d'être souvent rassuré. Et je pense que là, il sait qu'il a fait les choses bien.
Ouais, bah c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'un coureur, quand tu sais, peu importe le résultat, quand tu sais à l'entraînement que t'as tout fait, tu pouvais rien faire de plus. T'es pas tombé malade. T'as pu rentrer tous les entraînements que tu voulais. T'as plus rien à perdre. Après, t'as tout fait. Même si ça marche pas, tu pouvais pas faire plus avant d'arriver au Tour. Il a déjà gagné ses deux étapes. Avant, comme tu dis, il courait après la forme. Il visait son premier podium. Donc, il essayait de s'accrocher. Il y avait la pression dans une équipe Quickstep à l'époque qui était pas vraiment orientée en fait, classement général, etc. Et un mec comme lui, on parle souvent de son ego, etc., mais qui est en confiance dans son équipe, qui sait qu'il a tout fait avant, il a rien à perdre. Il a déjà gagné deux étapes. Ça, c'est un mec dangereux.
Mais si ça marche, ce sera peut-être la porte ouverte aux autres coureurs du peloton de se dire, on fait plus de courses à partir du mois d'avril, quoi. Hein, parce que lui, on rappelle que il a.
Mais ce qui marche pour les uns,
ouais,
Christophe,
ouais, ouais,
pas forcément,
ouais, mais bon,
pour les autres. Parce que regarde,
tu prends moins de risques.
Il le dit rapidement, mais il le dit au micro au Ciné International que c'est peut-être le manque de compétition qui lui a manqué en début de tour. Mais si en début de tour, il y a une étape de montagne beaucoup plus difficile que ce qu'on a eu jusque-là, il peut pas se permettre d'arriver en manque de rythme parce qu'il aurait, il a répété, parce que vers le Lioran, il pète. Il y a une étape.
Gavarnie,
il est pas saignant. Il peut pas se permettre de passer à travers sur une étape, notamment en début de tour, lorsque le tour part. Et que c'est très difficile, il faut être prêt de suite. Donc là, la préparation,
ouais,
effectivement, parfaite.
Hein.
La dernière des choses, c'est que samedi, on va passer déjà l'Alpe d'Huez. Et croyez-moi que c'est 5-6 coureurs qui se battent pour le classement général. Si dans l'Alpe d'Huez, ils pétouillent, le lendemain, ils repassent au même endroit. Et ça, dans la tête d'un coureur, c'est terrible. De retourner là où on a coincé, c'est jamais facile.
On en reparlera tout à l'heure du mental, ça sera avec Paul Sexas. Les planètes sont alignées, on a le sentiment pour Remco Evenepoel. On passe à notre rubrique carton, Jérôme, parce que il y a aussi un élément important qui s'est joué aujourd'hui dans cette équipe. Tout de suite, le carton.
RMC, l'After Tour.
Le carton.
Carton, quelle couleur, Jérôme ?
Alors, il va être orange, mais il va être contre moi, le carton. Le retourne contre moi.
Je ne l'attendais pas, je vais le mettre contre moi.
Et justement, ça va concerner Remco Evenepoel et l'ensemble de son équipe. Je leur ai mis, il y a quelques jours, la semaine dernière, un carton orange ou rouge, je ne sais plus, pour dire, ça va mal se passer dans cette équipe. Je sentais pas la cohabitation Lipovic, Remco Evenepoel. On a dit on met pas deux coqs dans la même basse-cour. Remco, c'est un mal alpha, etc. Ça sentait la poudre. Je me disais qu'ils allaient se marcher dessus et que la stratégie était pas claire dans cette équipe. Dimanche, je reviens à dimanche au plateau de Solaison. Quand il y a la chute de Jonas Vingegaard, le peloton est un peu désorienté. Il y a Tom Pidcock qui est devant. C'est Red Bull Bora qui prend ses responsabilités, qui roule derrière tous les équipiers au boulot et les leaders qui répondent présents. Remco qui va gagner l'étape, Lipovic qui perd un peu de temps mais qui arrive avec Paul Sexas. Et c'est ça qu'on attend d'une grande équipe sur le tour, d'une équipe de la taille de Red Bull Bora avec des coureurs comme Lipovic et Remco Evenepoel. Donc faut savoir, nous on a des convictions, faut savoir dire quand on s'est trompé, je me suis gouré, j'enlève mon carton, je le prends pour moi cette fois, bravo à cette équipe-là. Et aujourd'hui, au-delà du résultat de Remco Evenepoel, c'était plus ou moins attendu qu'il allait gagner. On était avec Maria dans les paddocks. On a vu, on était longtemps devant le bus Red Bull Bora. On a vu comment ils ont travaillé. C'est la seule équipe que j'ai vue quand j'ai fait le tour sur la moto à avoir deux voitures posées sur le parcours pour faire des temps intermédiaires en plus. Donc, ils ont vraiment très bien travaillé. Ils travaillent très bien. C'est pour ça que je retire tout ce que j'ai dit avant. C'est vraiment très bien ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement pour eux, aujourd'hui on parlait de la stratégie avec Lipovic et Remco Evenepoel. Bah, Lipovic a abandonné sur chute aujourd'hui. C'est quand même un mec qui est pas spectaculaire, mais qui est toujours là, qui pète jamais vraiment, Lipovic. Et peu importe, après la stratégie, elle allait s'éclaircir ce soir. Peu importe le résultat de Lipovic, la stratégie allait être plus claire ce soir. Et Lipovic aurait pu être un grand soutien à Remco Evenepoel. Alors il y a encore Jay Hindley, un ancien vainqueur de Grand Tour aussi. Mais quand tu perds une carte comme Lipovic, déjà mentalement, il l'a dit, Remco Evenepoel, c'est une victoire difficile à avaler, douce, je sais pas comment on dit, douce amère, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Parce que d'un côté, il se réjouit d'avoir gagné, d'avoir repris du temps à ses adversaires, mais d'un autre côté, il sait qu'il perd le co-leader et on va pas dire cette fois, parce que c'est pas vrai, on va pas dire à Remco d'un côté, il est content parce qu'il va avoir le leadership. Non,
parce que
pas du tout.
Ça va lui manquer.
Bien sûr, ça va lui manquer et va falloir que cette équipe, à l'image de Visma Liseberg, alors ils ont un autre objectif, mais qu'elle arrive à se remobiliser dès demain, parce que demain, c'est pas une étape ultra importante, mais faudrait être dans le coup dès le début.
Richard Virenque, la perte de Florian Lipovic pour cette équipe et pour Remco Evenepoel, même si on sait qu'avec quelques petites tensions, ça peut être un élément vraiment négatif.
C'est un élément positif pour tous les autres adversaires. Tous ont permis de remonter une place au classement général. Vous imaginez, en deux jours, on enlève deux grands favoris du Tour, que ça soit Vingegaard et Lipovic, out, alors que c'est des coureurs qui sont là pour le podium. Donc c'est incroyable. Pour l'équipe Bora, on sentait, on va dire, une rivalité, on va dire, entre deux coureurs. Il est clair qu'il y a eu l'ascendant vraiment qui s'est marqué dans l'étape de montagne avec Renko, pour qu'il a montré comme quoi il avait la jambe au-dessus. Aujourd'hui, le chrono, c'était aussi normal qu'il soit dessus. Mais bon, voilà, maintenant, ils vont tous courir à fond pour lui. Donc je pense que l'équipe Bora avait deux atouts, maintenant ils en ont plus qu'un, et les adversaires, eh ben c'est leur jour de chance, parce que avoir un Lipovic en moins, ben c'est une ils se battent tous pour une place pour le classement, on va dire, pour la cinquième, pour la troisième, pour la quatrième. Là il y a deux gars qui sont partis, donc c'est de bonnes nouvelles. Malheureusement, il y en a qui partent au tapis comme ça, et c'est pas fini peut-être, parce que le Tour est piégeux encore dans les prochains jours. C'est pour ça qu'il faut être vigilant.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, évidemment. Maria Azé nous a rejoint. Bonsoir, Maria.
Salut, Pierre. Salut, tout le monde.
Un contre-la-montre animé pour Maria aussi, qui a vécu de grandes frayeurs aujourd'hui.
Elle a failli chuter, ça arrive au motard aussi. Hein.
Mais elle n'a pas chuté, elle est toujours sur le tour. Pas d'abandon pour Maria.
Non,
en revanche, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. On parlait de cette équipe à double tête chez Bora, qui n'a plus qu'une tête. Mais il y a une autre équipe qui se retrouve avec deux têtes. La performance de Mathias Kelmose sur ce chrono fait que bon, on se demande qui est leader du côté de Lidl Trek, avec Juan Ayuso qui lui est passé à côté, Maria.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la bataille entre Lipovic et Evenepoel, mais celle qui se dessine là après ce contre-la-montre, c'est celle entre Kelmose et Juan Ayuso. L'Espagnol avait plus de 2 minutes d'avance sur son coéquipier avant le chrono du jour, mais Ayuso a fait un chrono catastrophique, hein, vous en avez parlé, 15e à 2 minutes 22 de Remco Evenepoel, alors qu'il est censé normalement être plutôt à droit dans dans la discipline. À côté de ça, Mathias Kielmoze, qui lui normalement est plutôt en dessous, a fait un chrono exceptionnel. Il termine 3ème de l'étape à 1.04 de Remco, et il n'est plus qu'à 52 secondes de son coéquipier au classement général, 5ème et 6ème du classement général. Kielmoze, c'est pas un mauvais client, hein, c'est un très bon grimpeur, il reste sur une très bonne saison, 2ème de l'Amstel Gold Race, 5ème de la Flèche Wallonne. Il n'a pas gagné cette saison, mais ça reste un très bon coureur. Il est tout à fait capable de bien figurer dans les dernières étapes, même si les étapes de l'Alpe d'Huez vont être un peu difficiles pour lui. Mais c'est vrai que quand on voit la forme de Juan Ayuso, on l'imagine bien craquer dans des étapes de fin de semaine. Et donc, possible que ce soir, dans la direction sportive de Lidl Trek, on commence à se dire, est-ce qu'on ne prendrait pas une carte de secours?
Ouh là là, surtout quand on connaît toutes les qualités de coéquipier de Juan Ayuso, qui adore partager quand même le leadership, Jérôme Pidot, on peut imaginer que ce soir, chez Lidl Trek, ce soit un peu tendu, non?
Bah, ça va être tendu, oui et non. Ayuso, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Ça fait, il l'a dit lui-même, pour être sur le podium du Tour, on ne doit pas avoir deux défaites comme je les ai subies. Il a subi une défaite pour lui dans sa tête, et c'est un fait à Solaison, et aujourd'hui encore dans le chrono. Je crois qu'aujourd'hui dans le chrono, là, il a pris une grande claque derrière la tête, parce que en plus d'avoir fait un mauvais chrono, il a vu son coéquipier, collègue, pas ami à mon avis, de la même équipe, lui mettre une raclée. Et quand on s'appelle Ayuso et qu'on n'est pas capable de se mettre au service du plus grand coureur cycliste de tous les temps, moderne, allez, Tadej Pogacar, on va pas se mettre au service de Kielmoze. Et la problématique, c'est que Kielmoze, il a déjà un gros retard sur les autres. Même s'il venait à essayer d'avoir une stratégie offensive en plaçant un à l'avant, je vois pas pourquoi ça affolerait les autres. Kielmoze, il a plus de 2 minutes 10 derrière Paul Sexas. Ils vont pouvoir se servir de ce collectif, peut-être pour une étape. Mais je pense qu'Ayuso, il a fait une amorce de serrage avant-hier. Aujourd'hui, il a montré que le moteur, il commence à couiner. Et je serais pas étonné de le voir encore perdre du temps dans les étapes de montagne. Donc pour cette équipe Lidl Trek, qui a eu double objectif, d'un côté avec Pedersen, de l'autre côté avec Ayuso ou Kielmoze, plutôt Ayuso, qu'on a recruté en tant que leader, on est un peu en train de passer à côté quand même.
On laisse cette équipe Lidl Trek avec ses problèmes et nous on va s'intéresser à Paul Sexas.
Chacun ses problèmes.
Ouais, chacun ses problèmes, exactement. Allez, on se retrouve dans l'After Tour dans quelques instants pour évoquer la belle performance encore du français Paul Sexas, 4ème aujourd'hui.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Le temps passe aussi pour l'After Tour. C'était jour de chrono. Aujourd'hui, le contre-la-montre. Victoire de Remco Evenepoel et la très belle 4ème place de Paul Sexas. Est-ce que dimanche, s'il était en dehors du top 5, vous seriez frustré? Il est 4ème du général aujourd'hui. Il n'avait jamais couru plus d'une semaine. Il finit 4ème aujourd'hui d'un chrono derrière Pogacar, Evenepoel et Kielmoze. Quoi qu'il arrive désormais, on peut dire qu'il a réussi son tour. Enfin, moi, c'est mon avis. Quel est le tien, Christophe?
Ah oui, je suis entièrement de ton avis aujourd'hui. Alors, je sais bien ce que va nous dire Jérôme. Il va nous dire, voilà, Polo dispute son premier Tour de France. L'important, c'est qu'il le termine, quelle que soit sa place. C'est ce que tu nous disais il y a quelques jours.
Tout à fait.
Je ne sais pas si tu es toujours de cet avis. On en parlera dans un instant. Évidemment que ça, c'était le premier objectif qu'il s'était fixé, que l'on lui avait fixé. Je me rappelle qu'au soir du 4 mai, lorsqu'on avait appris qu'il allait participer au Tour de France, tout le monde disait, ce serait bien qu'il soit dans le coup, qui se bagarre pour le général durant une semaine, voire deux semaines, et qu'ensuite ce serait pas très grave s'il coinçait en dernière semaine, surtout qu'on avait déjà le parcours. Ok, mais ça c'était avant, parce que aujourd'hui, franchement, ce garçon, moi m'épate, jour après jour, il est là, il ne coince pas. Certes, il a perdu quelques dizaines de secondes dans l'ascension de Solaison l'autre jour, mais encore une fois aujourd'hui, il a fait la bagarre avec Del Toro, qui a trois années de plus que lui. Qui est l'un des grands espoirs du cyclisme mondial, bah, il est à armes égales avec Del Toro. Il a encore repris 5 secondes aujourd'hui. Et puis quand tu vois le classement général aujourd'hui, avec l'abandon de Lipovitz, avec l'abandon de Vingegaard, aujourd'hui la cinquième place, enfin la sixième place, elle est assez loin. Donc cette cinquième place, au moins cette cinquième place, elle semble vraiment dans les cordes de Polo. Alors évidemment, il peut péter, il peut coincer vendredi ou samedi dans ces deux ascensions en direction de l'Alpe d'Huez. Mais moi franchement, s'il est hors du top 5, je serais très déçu. Pour moi et surtout pour lui.
Bien sûr. Richard, ce qui était impressionnant encore aujourd'hui, enfin ça c'était mon regard, je ne sais pas si tu le partages, c'est qu'en le regardant, on n'a pas vraiment de stress. On a l'impression d'avoir un garçon qui a déjà une maturité, qui a déjà fait le tour 4 ou 5 fois.
Oui, c'est vrai que mais il a la forme, il récupère, il est dans le coup. C'est facile de dire au départ du tour, oui, je vais essayer de faire le général comme beaucoup le font. Hein. Lui, il a 19 ans, il est vraiment dans le jeu. Il reste des belles étapes qui lui conviennent. Donc, moi, franchement, même s'il dévisse un peu, il fera dans les 5-6 premiers de ce tour et ça sera exceptionnel. Et il aura tellement appris en un mois. C'est là où je me dis, il a eu raison de venir parce que avec les bagages qu'il va avoir cette année, comme ça s'est passé, il va prendre plein d'informations. Il va revenir l'année prochaine un ton dessus, ça c'est sûr, parce que il aura la maturité, il va prendre du coffre. Donc quoi qu'il en soit, il va avoir une belle bagarre avec Aouzo. Là les prochains jours là dans la montagne, ils vont se castagner les deux. L'avantage du français, c'est qu'il va avoir le peuple derrière lui qui va le pousser. Ça va pas être le cas pour l'autre. Donc je dis que il a de grandes chances à finir dans les 5 premiers et voir peut-être le podium, parce que tout est possible encore, hein, mais on se dit, allez, quatrième, on serait tellement content. Mais aujourd'hui, il joue dans la cour des grands, exactement.
Ah ouais,
et ça se sent. Et pourquoi pas rêver, hein, on sait pas, mais il peut y avoir une grande surprise dans la grosse étape. Et voilà. Donc, Sexas, qui était produit, on va dire, à faire dans les 3 ou 5 premiers, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, il a le vent dans le dos pour l'instant, tout roule, et c'est ce qu'il faut dans un cyclisme pour un coureur. Hein. Toutes les planètes sont alignées pour l'instant.
Et malgré tout, comme c'est un compétiteur, un grand champion, eh bien, il était un petit peu déçu ce soir à l'arrivée. On l'écoute, Paul Sexas.
Je suis satisfait, je pense qu'aujourd'hui je suis à ma place. Je me suis battu toute la journée, ça devient de plus en plus mental. Ce début de troisième semaine commence plutôt bien. J'ai repris 5 secondes pour la bataille pour le podium. Physiquement, je me sens encore solide. Les jambes sont toujours là. Ça devient de plus en plus mental parce que tous les jours, on doit se battre. Ça fait 4 jours qu'on passe, qu'on se bat pour le général. Donc forcément, c'est une première pour moi et c'est pas facile. Je tiens le coup et je suis content de ce que je fais. Et chaque jour, on nous rapproche un peu plus de Paris. Donc forcément, chaque jour, on a un regain mental encore plus fort. Je suis content de ce qu'on fait et ce que l'équipe fait aussi. Mets en place autour pour que je performe. Et voilà, il reste 5 étapes et 5 jours pour se battre. Donc je suis prêt plus que jamais à me battre.
Voilà, il est prêt, Paul Sexas. Il disait aussi, comme je vous le disais il y a quelques instants, qu'il était un petit peu déçu malgré tout par l'exercice. Mais surtout, il explique que c'est le mental qui va jouer. On va retrouver Léna Marjac, qui vit au plus près de cette équipe Décathlon CMA CGM. Tout était mis en œuvre, Léna, bonsoir, pour réussir ce contre-la-montre.
Bonsoir tout le monde. Oui, c'est vrai. Hein, c'est une discipline que Paul Sexas apprécie. Alors c'est une discipline qu'il travaille notamment depuis 2022 avec son entraîneur Alexandre Paco, et plus sérieusement depuis un an, parce que depuis 2025, eh bien au minimum une fois par semaine, eh bien Paul monte sur son vélo de chrono pour travailler le contre-la-montre. Et depuis le début de ce Tour de France également, tous les soirs. Hein, je vous le disais, Paul était sur son home trainer à l'arrivée des étapes au bus. C'était pas un hasard. C'était sur son vélo de chrono aussi, déjà pour garder pendant 15-20 minutes tous les soirs ses habitudes sur ce vélo-là, notamment cette position assez spéciale que les coureurs ont quand ils font du chrono. Et tout ce travail a finalement plus ou moins payé aujourd'hui. Alors oui, Paul était un petit peu déçu, mais vous l'avez dit, c'est un compétiteur, il a envie de forcément beaucoup plus. Mais l'objectif que lui avait fixé le staff ce matin, en tout cas ce qu'il nous avait confié le staff, c'était un top 5. La preuve en est, c'est que ça a été réalisé parfaitement. Il est quatrième aujourd'hui, il a grappillé quelques petites secondes sur Isaac Del Toro, il est plus qu'à 20 secondes. Alors oui, du podium et du maillot blanc également. Et tout à l'heure, Julien Jurdi, le directeur sportif de chez Decathlon CMA-CGM, a été questionné sur le fait que maintenant, ils ne peuvent plus vraiment se cacher pour la troisième semaine. C'est-à-dire que le podium est à portée de main. Écoutez la réponse de Julien Jurdi, qui reste un petit peu humble.
On avance comme depuis le départ. Honnêtement, on est dans une troisième semaine. C'est pas une grande surprise, qui est extrêmement difficile, notamment l'étape de samedi qui est juste monstrueuse. Donc on va malgré tout avancer avec prudence. On va essayer de faire le maximum, d'aller le plus haut possible au niveau du classement général. Soyez rassurés là-dessus. On va pas se projeter sur un maillot blanc, sur un podium. Voilà, on va donner le maximum collectivement, individuellement. On sait qu'il y a 3 batailles importantes à livrer jeudi, vendredi et samedi. On sait que les difficultés vont monter crescendo jusqu'à samedi. L'étape, honnêtement, samedi, elle est monstrueuse. Donc tout peut se passer. Et une fois le plus, on va avancer tous ensemble, parce que il y a vraiment une très belle bataille à livrer.
voilà, donner le maximum jusqu'à la fin, parce que ce qui ressort aussi au sein de l'équipe, c'est que le tour est déjà plus ou moins réussi, déjà collectivement, hein, pour l'équipe, avec une victoire avec Olaf Kohl, mais aussi pour Paul Sexas, parce qu'au début, alors ça, c'est ce qu'on nous a un petit peu confié ces derniers jours, où parce qu'on avait envie de pas trop se mouiller, l'objectif c'était que Paul termine le tour, certes, mais maintenant je pense qu'ils ont envie de voir un peu plus grand, mais ils ont pas envie d'être déçus à l'issue de ce Tour de France, donc ils veulent pas trop donner d'objectifs concrets, même si vraiment là, avec un podium à 20 secondes d'Isaac Del Toro, ils ont envie de rêver, et je pense qu'ils seront très très fiers à l'issue de cette semaine pour l'ensemble de l'équipe et pour Paul Sexas.
Merci beaucoup Léna Marjac. On se retrouve évidemment sur les étapes à venir et dès demain pour une nouvelle. Voilà, ça sera un peu plus tranquille. Ça sera une entrée avant les grosses étapes à venir. Vous nous appelez au 32-16. Hein, dans un petit quart d'heure, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenque. Jérôme Coppel. Je me mets dans du cyclisme fiction. Paul Sexas a demain un souci. Il a attrapé un gros virus. Il est obligé de quitter le Tour de France. Est-ce que ce Tour de France est réussi?
Oui, il sera réussi. Même s'il venait à quitter le Tour. Parce qu'il a montré qu'en début de troisième semaine, sur un chrono, le lendemain d'une journée de repos, il est encore là. Donc, ce qui sous-entend qu'il va encore être là sur le reste de la semaine. Je dis pas d'aller batailler avec Pogacar, mais en tout cas, il sera encore là sur le reste de la semaine. Donc oui, le Tour de France de Paul Sexas est déjà réussi. Ça fait déjà quelques étapes qu'il est réussi.
Mais est-ce que tu serais déçu s'il n'était pas dans le top 5?
Non. Pas du tout.
Toujours pas.
Toujours pas. Je serais pas du tout déçu parce qu'en fait, t'es
Savoyard
déçu.
Savoyard est têtu de toute façon.
Non, non, non. Oui,
j'essaye tous les jours. Encore plus.
Je change pas de règles. Vous savez, j'ai un papier chez moi, ça va vous faire rire, mais avec la place que je pensais que Paul Sexas allait faire avant que je parte au toit. Je vais pas vous la donner.
Oui, mais t'es repassé chez toi hier. Ouais,
non, mais je l'ai pas changé. Je l'ai pas changé. Par contre, du coup, tu m'as fait perdre le fil. Oui, non, je serais pas du tout déçu s'il terminait plus loin que le top 5. Et on va le redire, mais il a encore 19 ans. Son tour est déjà réussi. Quoi qu'il se passe à la fin, même s'il pète, même s'il termine 35e, son tour est réussi.
Il est réussi, mais quand on, l'appétit vient en mangeant, oui, Jérôme. Oui, là, aujourd'hui, mais, on sent que le podium est tout proche.
Oui,
donc
on serait
déçu.
Non, parce que, non, tu serais pas déçu parce que, en fait, t'es déçu, ça dépend de l'objectif que nous-mêmes, on se fixe pour lui, tu vois. En fait, là, ce qu'il donne, c'est des garanties pour l'avenir.
Objectif.
Bien sûr, bien sûr. Mais avant le tour, est-ce que tu l'aurais mis potentiellement sur le podium du tour? Honnêtement.
Je l'espérais sans trop y croire.
Voilà, tu l'espérais sans trop y croire. S'il avait, avant le tour.
J'y crois sans trop l'espérer.
Voilà. Si avant le tour, on t'avait dit, voilà, Paul Sexas va terminer 7e du Tour de France.
Bah, ça aurait été magnifique.
Voilà. Et là, s'il termine 7e du Tour de France, tu dis quoi? C'est très bien. Mais il nous aura prouvé qu'il peut faire un podium du Tour et gagner. C'est ça, en fait. C'est les promesses qu'il nous montre après 2 semaines de course et après 3 semaines de course. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la place.
Donc, Jérôme Pinault, qui n'est pas au Savoyard, mais de Loire-Atlantique, il sera déçu.
Je serais déçu maintenant qu'on est tout proche de la gamelle de sangria, quoi. Ça serait dommage de se péter la tronche à 2 mètres du bol, quoi. Mais en même temps, je ne peux pas imaginer que ça lui arrive. C'est-à-dire que Paul Sexas ne va pas coincer. S'il doit perdre beaucoup de place, c'est qu'il aura eu un problème. Parce que dans la dernière semaine du tour, chacun reste à peu près à sa place.
Il dit c'est le mental maintenant.
Oui, et donc le mental.
C'est ça la troisième semaine.
Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein.
À 19, ouais. Oui, parce que regardez Ayuso, le mental, paf, popcorn. Aujourd'hui, il a les moyens d'aller rêver du podium. Il va finir tout près de ce podium. J'en suis à peu près persuadé. Quelle place, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il ne perdra pas autant de temps pour finir 15e du tour s'il n'a pas un problème. Et s'il avait un problème, ça veut dire que l'an prochain, il faudra travailler sur l'absence de ce problème. Une maladie, une blessure, une chute. Bon, d'accord. Par contre, ce qu'on sait ce soir, c'est que ce gamin est capable un jour de gagner le tour. Ça, on le sait, ça y est.
Maintenant,
chrono, il sait faire. 4e du chrono du tour à 19 piges en 3e semaine.
Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de faiblesse dans n'importe quel exercice.
On sait que ce gamin, un jour, peut gagner le Tour de France. Voilà. La dernière semaine, maintenant, c'est pas parce qu'il perd un peu de place qu'il n'est pas capable d'être fort en 3e semaine. On a parlé de la puissance, du manque de puissance, de son âge. Il va faire ce tour. Il va être transformé après ce tour. Il aura tout vu sur ce tour. Donc moi, je suis à peu près persuadé que ce tour va être la page, la première pierre à sa future victoire dans le tour. Maintenant, évidemment, que si tu me dis, il va pétouiller, il va perdre 4 places, il finira derrière un...
Ayuso.
Ah non, pour moi c'est... Mais aujourd'hui, je vais te le dire, s'il ne fait pas podium, ça me fait chier parce que il est tout prêt.
Oui, mais est-ce que tu seras déçu?
Non, c'est pas pareil. Non, je serai déçu pour lui parce qu'il l'a dans la tête.
Ça, on sera mais, déçu
mais,
pour lui,
mais je serai pas déçu de lui. Voilà. Ça, c'est sûr que non.
Richard, raconte-nous comment le mental joue sur une troisième semaine. De ton expérience, de tes souvenirs, il y a plus que ça. Oh, il faut un peu les jambes, évidemment, mais c'est très important.
Oui. L'avantage que Paul a, c'est qu'il y a vraiment une rivalité avec Ayuso et Del Toro plutôt.
Del Toro, ouais.
Ouais, Del Toro. Il y a vraiment une rivalité avec et cette rivalité, ils ont pas le même âge, mais ils sont tous les deux avec le maillot blanc, tout ça. Cette rivalité, elle va faire passer un cap à Paul. Qui va se surdimensionner physiquement et avec le public va être du côté de Paul et ça va être à son avantage. Donc moi je l'ai vécu à mon époque dans l'adversité avec les autres, que ça soit avec Pantani, avec Ulrich, avec on va dire Indurain à l'époque, après Armstrong, bon passant, et ça grâce au public, j'arrivais à me mettre en hypnose dans l'effort et dans la douleur, parce que à ce moment, on est tous à fond, hein. Et c'est là où, eh ben, on est tous à fond, on est dans la dernière semaine et on se raccroche à des rêves, au public, à des choses que les autres n'ont pas. Et c'est là où il y a un petit plus qui fait que, eh ben, il va y arriver. Parce que c'est un champion, on le sent, hein. Il y a un champion, il naît champion, hein. C'est comme, on va dire, un chanteur, il chante et de suite on sent qu'il a un talent et il y a du travail derrière. Mais voilà, Paul, je pense que les jours qui vont arriver, il va se sublimer. Il pense pas le faire là parce que c'est un gros défi. Et je pense qu'il va s'impressionner, il va nous impressionner dans les prochains jours. Parce que le week-end qui va arriver, il va sentir, mais il va ouvrir la porte de sa chambre, il va sentir qu'il y a la France derrière lui. Mais ça, c'est palpable. Ça, je peux vous dire que moi, je l'ai vécu à mon époque, c'est ouf. Et quand c'est tout nouveau, ben on n'a pas envie de décevoir. Et donc, on se met en guerrier. Mais en guerrier pour mourir. En guerrier pour quand on fait les descentes, quand on souffre, mais on veut mourir sur un vélo. Et ça, on peut le faire parce que on a les gens qui nous encouragent, qui nous crient, et on est transcendé, on a la chair de poule. Et tous ces petits trucs-là, les autres vont pas l'avoir. Et lui, il va l'avoir. Mmh. Et c'est pour ça qu'il va aller très loin, je pense, ce week-end.
Là, on était porté avec toi, Richard, hein, parce qu'effectivement, on imagine très bien, Christophe.
On a tous les images de Richard fendant la foule avec le maillot à pois.
Oui, et puis sublimé par ce 12e homme dont on parle souvent dans d'autres sports plus collectifs, ça va très certainement peser, Christophe.
Et évidemment, parce que on l'a vu encore aujourd'hui, Paul s'exasse par rapport à tous les autres concurrents, même si évidemment il y a des applaudissements pour les autres. Mais au niveau intensité sonore, c'est 10 fois supérieur lorsque Paul s'exasse fend la foule. Et ça, comme le disait Richard, ça va forcément le sublimer. Maintenant, sublimé par le public, mais quand t'as une panne de jambes, quand tu pètes, ça peut aussi te handicaper, parce que t'as pas envie de décevoir les gens.
Et si oui, mais l'enjeu, il est tellement énorme. L'enjeu, il est tellement énorme et il est jeune, il le comprend, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc c'est vous imaginez quand moi j'étais dans des échappées, ben au bout de 3-4 heures tout seul devant, il me restait un dernier col à faire et un dernier col avec 30-40 minutes et ça revenait derrière. Mais là, comment je faisais pour tenir, pour pas exploser en l'air? Et ben je me raccrochais aux gens, au public. Et il me portait, et j'allais jusqu'au bout, et j'explosais jamais. En fait, c'est que ça, je suis sûr qu'à un moment donné, il va y aller vers ça, et il va progresser encore plus, et il va monter encore un palier.
On imagine bien, hein, les cols à venir, les monstres qui arrivent samedi. Comment ça va être au bord des routes, Jérôme?
D'autant qu'il va être chez lui toute la fin du
c'est
tour.
C'est ça.
Non. Ou pas très loin.
C'est un tour qui a été fait pour lui, écrit pour lui.
Peut-être. Je sais pas. Je pense que tous les, ça va finir. Je dis pas qu'il aura le palmarès de Tadej Pogacar, mais on voit pas de faiblesse. Donc tous les tours, peu importe comment ils vont être tracés, vont plus ou moins lui convenir. C'est pas comme s'il avait un gros défaut au chrono. Donc on met moins de chrono. Il y a trop de chrono. Ça sera pas pour lui, etc. Par contre, là où Paul, on l'a déjà dit, il est dans l'inconnu sur plein de choses. Il parle beaucoup de mental parce que les autres, ça, ils savent tous, les autres, tous ceux qui ont déjà participé à un grand tour, que de toute façon, quand on descend du bus, on peut plus marcher en troisième semaine. On a l'impression d'avoir fait un trail de 100 kilos. Mais lui, il sait pas ça. Donc il se dit, peut-être moi, j'ai plus mal aux jambes que les autres. Alors que les autres, on sait tous qu'on est tous dans le même état. Mais lui, il va avoir le public, il va avoir les, son équipe qui vont lui dire, mais t'inquiète pas, t'es pas plus mal que les autres. Et puis après, ce qui te remet en confiance, c'est tu fais le premier col, t'es plus que 15 et toi, t'es encore là et tu dis, mais en fait, je suis pas plus mal que celui d'à côté. Donc ça va aller. Et lui, pour le connaître un peu son entourage, il est tellement insouciant de, voilà, le stress lui coule un petit peu dessus, même si aujourd'hui, on a vu
tout à l'heure au départ avec les jambes qui
ouais, aujourd'hui, je pense que le stress a coulé un peu moins vite que d'habitude sur lui. Mais, il va, je suis d'accord avec vous, il va pas complètement craquer, ça, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais par contre, il va, faut qu'il apprenne à se dire que, à partir de maintenant, tout le monde est cramé. Tout le monde est dans le même état et lui, il est pas pire que les autres, même s'il a que 19 ans.
C'est le travail de son staff.
Bien sûr, bien sûr.
Ça aussi, aussi dans le staff, on doit pas être fan du coureur, mais on doit être là pour le rassurer maintenant. Lui dire, on rentre dans une phase où vous avez tous mal aux jambes, où ça va être la tronche, où chaque matin quand on se lève, on a envie de faire tout sauf aller faire du vélo. Et ça, c'est le travail de son staff, mais j'ai l'impression qu'on travaille très très bien autour de lui et que ça roule plutôt pas mal. Il remercie son équipe d'ailleurs à chaque fois.
On en a l'eau à la bouche. On a hâte d'être dans ces dernières difficultés de ce Tour de France avec un Paul Sexas toujours dans le match, quatrième du classement général. Même s'il n'y a pas de victoire française d'étape pour l'instant, eh bien les
Français dans le top 9 quand même.
Trois Français dans le top 9, effectivement.
Il va falloir qu'on le rappelle. Ça quand même une partie de notre émission.
Aleni
Martinez.
Oui,
faire un super tour.
Super tour, exactement. Eh bien tiens, demain soir dans l'After Tour, on parlera de Aleni Martinez.
Carton vert à Aleni demain.
Exactement. Voilà, le programme est déjà fait. On se retrouve dans quelques instants avec les auditeurs au 32-16, messieurs qui vont vous poser leurs questions. A tout de suite dans l'After Tour.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Le dernier tiers-temps de l'After Tour avec nos consultants. On vous lâche entre les mains des auditeurs. Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Richard Virenque et c'est Alexandre de Montélimar qui est avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir tout le monde, salut l'équipe.
Salut Alexandre. Salut Alexandre.
Merci d'être avec nous dans l'After Tour. Je te laisse poser ta question ou tes questions à nos consultants.
Alors, les Jérômes et mes amis journalistes, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Del Toro risque d'être lâché par Pogacar si Remco attaque Pogacar?
Ça c'est vrai que c'est un peu la problématique, la stratégie du AE. On se demande dans quel sens ça va tourner.
Alors Remco, il attaquera jamais Pogacar. Parce que Remco, il est content d'être dans la roue et sa place de deux lui va très bien. D'ailleurs, ce soir, il a clairement dit qu'il voulait stabiliser sa place de deuxième. Donc, il n'y aura pas d'attaque de la part de Remco Evenepoel. Personne n'osera attaquer Tadej Pogacar. On était en train, Alexandre, je pense que tu as des oreilles dans ce camion, parce qu'on était en train de parler de qu'est-ce qui pourrait déstabiliser Del Toro. Le seul qui a un intérêt à attaquer Del Toro, c'est Paul Sexas. Et ça, il faudra le faire le plus tard possible, au risque de se faire contrer et de perdre des places. Donc, moi, je ne vois absolument pas Evenepoel attaquer. En revanche, il y a une deuxième option. Et je te laisse, Gégé, la parole. C'est Del Toro, il peut péter sans que ça accélère. C'est déjà un peu arrivé dans les étapes précédentes où on l'a vu se faire distancer avec un train régulier sans attaque. Mais c'était le train de Visma.
Et voilà. C'est ça. C'était le train de Visma. Et ça change d'ailleurs au plateau de Solaison. Si Vingegaard n'avait pas chuté, ça aurait peut-être changé la donne. Et moi, je suis complètement d'accord avec Jérôme. C'est-à-dire, Remco Evenepoel ne va pas attaquer. Ça permettra à Tadej Pogacar. Alors, pour répondre complètement à ta question, Alexandre, si Evenepoel attaque Pogacar compte, bien sûr que Del Toro, il pourra pas suivre. Il pourra pas suivre. Mais Evenepoel va pas le faire. Il a trop à perdre, à attaquer, au risque de se faire contrer. Et Del Toro, des fois, il finit très bien les ascensions. Il arrive à bien finir ses étapes. Donc, ça serait beaucoup trop de risques. Le seul qui pourrait tenter. Alors, déjà, faut pouvoir tenter quelque chose. Donc les seuls qui peuvent éventuellement attaquer, c'est Evenepoel et Paul Sexas. Ayuso Esquelmoseux, ils s'accrochent comme ils peuvent. Ils peuvent pas vraiment attaquer. Mais le seul qui a un vrai intérêt à attaquer pour aller chercher quelque chose, c'est Paul Sexas pour aller chercher le podium. Et ça peut être un risque.
Mais la Décathlon CMA-CGM a pas, à mon avis, un train suffisamment costaud en montagne. Il y a que Nicolas Prudhomme, Tige Benoît, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur les grands cols alpins. Pour essayer de mettre dans le dur l'UAE, ça va être compliqué. Les positions risquent de se figer dès le vendredi, quoi.
Richard, on a vu aussi Riquitello un petit peu mieux et on a vu parfois cette Décathlon CMA-CGM au pied des cols prendre les choses en main. Ça peut être aussi la physionomie des étapes à venir.
Ouais, moi je vois plus une course débridée avec ceux qui n'ont pas vraiment gagné encore sur ce tour, qui vont essayer de partir de loin et forcément ça va attiser un peu la course et vu que c'est un parcours difficile, quand on est dans la difficulté, quand on va être dans l'étape de samedi, monter une première fois l'Alpe d'Huez, tout ça, il va y en avoir deux partout. Donc il suffit pas vraiment d'attaquer, hein. La sélection, elle va se faire uniquement l'élimination par l'arrière. Et le fait qu'il va y avoir des échappés, le fait que, par exemple, Martinez soit devant, il va être devant et imaginez qu'il est dans une échappée, il prend 6, 7, 8, 9 minutes. Derrière, ils vont devoir rouler et ça va attiser le groupe des leaders. Moi, je pense que le parcours, il est tellement bien fait qu'il suffira juste d'être bien. Et l'élimination, elle va se faire par l'arrière. Donc le fait d'être bien, si Paul Sexas est bien, eh ben il n'aura pas besoin d'attaquer peut-être à un moment dans les deux derniers kilomètres, trois derniers kilomètres, pour faire une sélection, pour aller chercher les 20 ou les 30 secondes qu'il a besoin. Mais en fait, d'être présent et d'être bien, ça va se faire par l'arrière.
Voilà Alexandre, la réponse de nos consultants, sauf si tu voulais compléter Jérôme.
Non, je voulais juste dire que le seul qui a un équipier de haut vol en montagne, c'est Tadej Pogacar avec Del Toro, c'est les seuls qui ont une force collective.
Mais il faut pas pour finir là-dessus, il faut pas se tromper de vraiment d'objectif, c'est pas à Décathlon CMA-CGM de prendre la course en main, de rouler, de faire un train comme fait l'UAE de Tadej Pogacar. Lui, Paul Sexas, il a 20, si vraiment il vise le podium, il a 20 secondes à aller chercher, faut qu'il suivent le train, voir comment ils sentent et après essayer juste à la fin des ascensions pour prendre 5 ou 10 secondes par-ci par-là et éventuellement monter sur le podium, mais pas partir de loin, se faire exploser le caisson et prendre le risque de tout perdre.
Et ça, GG, ça a été pour moi une des premières petites erreurs qu'a fait UAE à Solaison. Pourquoi ? Parce qu'on a compris aujourd'hui qu'on veut amener Del Toro sur le podium. Ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que quand Tadej Pogacar va faire le train dans le groupe maillot jaune, il fera le train que Del Toro supporte. Et là, les coureurs, quand ils vont s'apercevoir que ça roule un poil moins vite que d'habitude, ça voudra dire que Del Toro est moins bien. Et là, il faudra passer à l'action. Et ça, c'est peut-être avoir un peu trop abattu tes cartes un peu vite.
Souvenez-vous du petit échange à la fin du plateau de Solaison. Est-ce que je peux accélérer progressivement ? Ce sont les mots de Tadej Pogacar dans l'oreillette. Et là, Del Toro dit « ne me lâche pas ». Ne me lâche pas.
Oui.
Et ça, on va le revivre très certainement. Merci beaucoup, Alexandre. Et on retrouve Jérémy de Bourdoisan. Ah, Jérémy qui connaît bien la région.
Il est bien placé, là.
Évidemment. Jérémy, bonsoir, Jérémy.
Bonsoir, tout le monde. Ravi de vous avoir.
Salut, Jérémy.
Merci d'être dans l'After Tour. Tu as une question qui va faire plaisir à Jérôme Pinault.
Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, avec Christophe Cessieux, pendant la diffusion du Tour, vous aviez parlé un petit peu des règles sur les courses, notamment pour les courses contre la montre, et sur les règles de vélo, le poids des vélos. Et moi, j'avais une question sur le WhatsApp. Je me posais la question, pourquoi on limite, on bride ces règles? Pourquoi on ne laisse pas libre cours aux constructeurs? On laisse carte libre, vous faites le poids que vous voulez. Le but serait de innover et faites les vélos les plus légers possibles. Pourquoi on limite à 6 kg? C'est ça que je comprends.
J'ai une réponse très très simple, Jérémy. Aujourd'hui, on a vu la vitesse maximale de Del Toro, par exemple, il a été chronométré à 97,5 km/h. Un vélo en dessous 6,8 kg deviendrait un outil incontrôlable, trop léger, et donc faudrait prendre trop de risques aux coureurs. C'est juste une question de sécurité. C'est la même chose pour les étapes de montagne. Évidemment que l'on peut monter un vélo qui ferait 6 kg, même un peu moins. mais dans les descentes, à très vive allure, le vélo deviendrait incontrôlable. Il y aurait des problématiques de sécurité. C'est pour ça qu'on a fixé ce niveau-là.
Le vélo pourrait presque se casser, peut-être, Jérôme Coppel.
Bah, se casser, non, parce que le carbone, ça reste quand même très solide. Si tu fais un vélo, là, le poids minimum, c'est 6,8 kg. Si tu passes à 5,8 kg, il serait toujours aussi solide. Je veux dire, par contre, il deviendrait beaucoup plus flottant à haute vitesse. C'est-à-dire que tu aurais du mal, plus les roues qui sont de plus en plus hautes quand ça va vite. On a vu au chrono, tu prends un coup de vent avec un vélo à 5 kg, un vent de travers, tu t'envoles. Donc, il y a la sécurité. Après, moi, on m'enlèvera pas non plus en tête qu'il y a un côté un peu business à ça, parce que bientôt, peut-être que tu as raison, Jérémy, et que dans quelques années, le poids va devenir plus bas. Et tous les amateurs de vélo, les friands de matos qui ont un vélo à 6,8 kg, bah, si le poids minimum passe à 6,2 kg, bah, ils iront vendre leur vélo, ils iront en racheter un autre pour être à 6,2 kg, parce qu'il faut bien que le.
Il y a déjà beaucoup de cyclos qui sont en dessous de 6,8 kg.
Bien sûr, oui, parce que ça, c'est en compétition, hein, 6,8 kg, mais tu peux monter un vélo beaucoup plus léger, personne ne va venir te mettre une amende.
Richard, environ, le poids était aussi à la même limite à ton époque ?
Il y avait des vélos en tuyau de chauffage, oui. Richard,
Non, j'avais des vélos très légers aussi, et même il y avait des coureurs comme Pantani ou d'autres, avaient des petits poids, ils étaient obligés de coller des poids sur leur cadre pour rester au niveau de la réglementation. Oui, on a eu des vélos très légers, mais le problème de mon époque, c'est qu'on changeait assez souvent de vélo parce que les matériaux n'étaient pas assez rigides, ils s'abîmaient assez vite. Donc oui, on avait des vélos légers.
Ils collaient des poids, donc des autocollants pour donner un peu plus de...
Ou des petits poids.
Ah non, des poids. Ah mais quand tu parles des poids, je pense toujours à tes poids, moi, au maillot à poids.
Ah oui, non. Il lestait avec des poids.
Il lestait le vélo.
Oui, il lestait avec des poids. Ça m'avait surpris et je lui avais demandé pourquoi, parce qu'ils avaient descendu trop bas leur vélo et ils le remontaient avec des poids pour être passé à la réglementation.
Jérémy, qui est du Bourdoisan, Richard s'en souvient, on a fait contre la montre. En montée Bourdoisan Alpes d'Huez, on avait la pesée du vélo avant d'aller prendre le départ. Je peux vous dire que chaque coureur cycliste qui avait envie d'avoir un résultat avait un vélo à 6,8 kg. Et la première chose qu'il faisait avant de prendre le départ, c'est d'enlever le bidon ou de le vider de moitié pour passer sous cette fameuse limite, parce que tous les poids qu'on pouvait enlever, il n'y avait pas de problème de sécurité, puisque à ce moment-là, quand on a fait le chrono, on redescendait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un argument de sécurité, parce que malgré tout, ça reste des vélos qui vont très très vite, 100 à l'heure, 100 km heure aujourd'hui.
Voilà, Jérémy, tu as la réponse à ta question. Est-ce que ça te satisfait? Et puis surtout, comme tu es du Bourdoisan, on a envie de savoir si tu vas être au bord de la route dans les jours à venir.
Je vais y être au bord de la route, je vais avoir un petit déguisement et puis on va peut-être faire un petit clin d'œil à RMC, on verra sur une pancarte, on verra si vous me plaît.
Ah, très bien. Il ressemble à quoi ton déguisement?
C'est une poule gonflable.
D'accord.
Ça sera une petite poule gonflable je vais chevaucher.
Sois bien grosse poule, hein, parce que comme ça, on te verra de loin. Parce qu'avec le monde qu'il va y avoir dans la montée, il risque d'en avoir des poules dans la montée.
C'est la Marjac qui sera contente.
Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à vous.
On te retrouve sur le bord de la route et dans l'after tour si tu le souhaites dans les jours à venir. Messieurs, on a comme d'habitude quelques secondes pour avoir votre pronostic et puis peut-être une petite photographie de l'étape de demain. On va partir de Chambéry et arriver à Voiron avec une belle entrée, hein, pour commencer, Jérôme.
Ah oui, toutes les difficultés sont regroupées dans les 60 premiers kilomètres. On aura 4 difficultés, 3 difficultés de 4e catégorie et une de 3e catégorie. Après, c'est pas plat, hein. Par contre, même quand on aura fait les difficultés, ça reste vallonné. Le sprint intermédiaire, très tard, il y a 174 kilomètres dans l'étape. Le sprint intermédiaire sera situé au kilomètre 147. Avant l'arrivée à Voiron, on l'a regardé avec Gégé tout à l'heure, qui va être très très tortueuse, hein. 3 virages à 90 degrés dans le dernier kilomètre. Ça devrait être les baroudeurs de demain, on n'aura pas d'ailleurs de sprint massif demain, mais attention quand même au final.
Ouais, bon, tu nous as pas donné de nom, donc tu as quelques secondes pour réfléchir.
Mathieu Van Der Poel.
Mathieu Van Der Poel, dès qu'on parle de poule, ça y est, c'est le mot qui...
Moi, je reste, Jérémy était là, il m'a parlé de poule, c'est le premier nom qui m'est venu.
Richard Virenque, ton pronostic.
Première victoire française demain. Kevin Vauclin. Qui sauve son
pas
tour.
Pas mal. Ouais, ça peut être intéressant. Il va y avoir, sur Pino, on l'imagine, un gros groupe qui va partir demain.
Ouais, moi je vais plutôt nommer le plus fort de l'étape de Solaison après Pogacar, Quinn Simons.
Quinn Simons, tu le vois passer les grosses difficultés là.
Il a vu passer le col franchissable de chez GG, le Salève là. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, et Solaison, s'il s'en occupe pas, il gagne aussi. Donc je pense qu'il a une bonne patte.
Et américain. En plus, s'il a eu le temps de passer chez le coiffeur, lui, il va perdre au moins un kilo.
Il a la stache mou 2. Impeccable.
Merci, messieurs. Merci, Richard. Merci, les GG. On se retrouve dans l'after et surtout dans l'intégral tour demain entre 14h et 18h. Tout de suite, c'est l'intégral foot avec l'after foot, pardon, avec Gilbert Bribois. À demain. Ciao.
RMC jusqu'à 20h.
L'after tour.